autre sujet ce matin, mais qui est tout aussi important, que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 19. Évangile selon Jean, chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 19. Le titre de la réflexion de ce matin, c'est « Il est apparu aux disciples ». Il, c'est Jésus. Il est apparu aux disciples. Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. Ça y est, c'est bon. On y va. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Connaissons le contexte. Pour les disciples, c'est un moment très particulier, puisque leur espoir était mort avec ce Jésus qu'ils avaient suivi pendant 3 ans et demi, qu'ils ont vu crucifié sur la croix, qu'ils ont cru au fond d'un tombeau. Et avec ces 3 ans et demi, sont morts, avec la mort de Jésus, 3 ans et demi d'espoir, 3 ans et demi de réussite, 3 ans et demi de choses extraordinaires, sont mortes avec Jésus. Et 3 ans et demi, parfois, qui ont été parsemés, eh bien, d'échecs, d'erreurs, sont là également sur le cœur des disciples. Mais, gloire à Dieu, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Vous le savez, Jésus est ressuscité. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et encore plus que cela, il est glorifié. Il est assis à droite du Père et il accomplit son service. Il n'est pas inactif dans le ciel, mais il continue à œuvrer. Il continue à penser à nous. Sur la croix, il a obtenu la victoire sur la mort. C'est pour cela qu'un jour, eh bien, nous ressusciterons avec lui. Et au son de la trompette d'un archange, les morts ressusciteront premièrement en Christ lorsque le Seigneur reviendra. Et nous, les vivants, et nous l'espérons, eh bien, nous serons emmenés avec lui sur les nuées, là, à sa rencontre, dans un corps qui sera totalement incorruptible. Mais les disciples, moi je me mets à leur place. Vous imaginez? Jésus passe la porte et puis se présente devant eux. Jésus est ressuscité. Quelle aurait été votre réaction à leur place? Comment aurions-nous réagi? J'imagine Pierre en train de regarder ses chaussures et de dire « J'espère qu'il ne sait pas que je l'ai renié. » J'imagine Marc en train de dire « J'espère qu'il n'a pas vu que j'étais parti tout nu. » Parce que certains commentateurs expliquent que ce jeune homme de l'évangile de Marc qui serait parti tout nu était l'évangéliste lui-même, hein, plutôt que de le suivre. J'espère que les autres, j'espère qu'il ne sait pas qu'on n'était pas à la croix. Peut-être qu'il pense qu'on était derrière la croix et qu'il ne pouvait pas nous voir. Dans leur cœur, il devait y avoir toutes sortes de choses qui se bousculaient. Mais Jésus va apparaître aux disciples. Et il va apparaître aux disciples plusieurs fois. Premièrement, dans le texte que nous avons lu, afin d'attester à leur cœur que l'enseignement qu'ils avaient reçu était véridique et que le Fils de Dieu devait ressusciter. Mais plus tard, il leur enseignera également, eh bien, la grande mission qu'ils auront d'aller aux 4 coins du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, pour enseigner, pour baptiser et pour, eh bien, véritablement faire de toutes les nations des disciples. Il leur enseignera l'Esprit Saint, la venue de l'Esprit Saint qu'ils doivent attendre à Jérusalem. Il leur enseignera également la notion de pardon et on pense notamment à Pierre à Tibériade. Bref, Jésus va apparaître plusieurs fois aux disciples. Combien de fois Jésus nous est-il apparu? Non pas physiquement, mais combien de fois Jésus est-il apparu à nos cœurs? Je crois que nous avons besoin, mes frères et sœurs, que Jésus se révèle plus d'une fois à nos cœurs. Je crois que nous avons besoin, mes frères et sœurs, que Jésus, eh bien, vienne dans nos cœurs, finalement, apparaître comme une évidence, en nous révélant des promesses, en nous révélant des enseignements, en nous révélant des certitudes, en nous révélant à nouveau son pardon. Combien de fois Jésus est-il apparu à nos cœurs? Il est apparu plusieurs fois aux disciples, et je crois que ce matin, il veut encore apparaître au travers de sa parole, au travers de ce qu'il va déposer, eh bien, à des cœurs et à des vies, que on croit en lui, ou que l'on ne croit pas en lui. Comme dirait l'apôtre Paul, nous avons besoin d'avoir les yeux de notre cœur illuminés afin de comprendre cette révélation d'en haut. Simplement, dans le texte que nous voulons lire, on s'aperçoit que les disciples n'étaient pas prêts à recevoir la résurrection de Jésus. Et ce matin, la pensée qui était sur mon cœur, c'est de dire, parfois, nous pouvons être comme les disciples. Nous pouvons finalement être derrière nos verrous et laisser Jésus à la porte. Je vous cite ce texte de l'Apocalypse que j'aime d'une manière toute particulière. « Je suis à la porte et je frappe, dira Jésus, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Alors, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'aime bien cette réciprocité. Où est Jésus ? Est-il à la porte ? Est-il à l'intérieur ? Jésus veut passer au-delà des verrous de ton cœur. Jésus veut passer au-delà des portes que l'on a pu fermer, afin de véritablement nous apparaître comme une évidence, afin de nous apparaître comme au premier jour, afin de pouvoir nous montrer ses mains percées, afin de pouvoir nous montrer tout ce qui en découle, la guérison de nos corps, la guérison de nos âmes, la guérison de nos cœurs. Jésus veut nous apparaître aujourd'hui comme une évidence. On a la mémoire courte, nous les hommes. On se souvient pas forcément de notre première expérience, elle est plus aussi vivace, elle est plus aussi forte. Cette réalité de Jésus mort sur la croix n'est pas quelque chose qui, finalement, on ne s'en souvient pas forcément avec la même intensité. Pour cela qu'il est nécessaire de la renouveler. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire dans notre cœur et dans votre vie. Alors, quels sont les verrous que les disciples pouvaient avoir dans leur cœur? Le premier verrou, c'est le verrou de l'incrédulité. On le voit dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 11. Lorsque les femmes qui étaient allées au tombeau vont leur annoncer qu'elles ont vu Jésus et qu'il est ressuscité, il est dit que ces paroles leur apparurent, version la colombe, comme une niaiserie. Et ils ne crurent pas ces femmes. Ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Ou une autre version, la version français courant, traduit comme un rêve. Une autre version traduit comme un délire. Bref, les disciples, malgré l'enseignement de Jésus, vont dire, mais vous déraisonnez. Vous avez bu trop de saké. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est complètement incroyable. Un petit peu à l'image des beaux-fils de Lot, lorsque leur beau-père va leur annoncer le jugement qui doit venir sur Sodome et Gomorre, eh bien, ils vont se moquer. Ils vont dire, c'est pas possible. Et pourtant, le jugement va bel et bien tomber. Frères et sœurs, chers amis, il y a des réalités spirituelles qui nous concernent tous. Dieu n'a pas une table pour Samuel et une table pour David. Dieu n'a pas une bénédiction particulière pour Denise et une pour Paul. Mais la table est commune. Et sur cette table, il y a bien des choses qui sont dressées. Et ces choses sont pour tous les enfants de Dieu. Elles sont pour tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas du premier choix pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Il n'y a pas du second choix pour ceux qui en ont moins. Et ce n'est pas une grâce à prix discount pour ceux qui sont finalement considérés comme peu par les hommes. Mais la grâce est la même pour tout le monde. Et Dieu veut nous combler notre cœur de la même manière avec la même grâce. Comme une niaiserie. Et parfois dans notre cœur, il peut y avoir cette pensée de dire « ça c'est bien pour les autres ». Mais ce n'est pas pour moi. Cette bonne nouvelle, la guérison du corps, le baptême dans le Saint-Esprit, la guérison du cœur, c'est bon pour les autres, mais ce n'est pas bon pour moi. Frères et sœurs, Jésus est paru aux disciples. Et comment les a-t-il convaincus? Il leur a montré ses mains, il leur a montré ses pieds. Et là, ils ont réalisé que finalement, eh bien, Jésus était réellement le même que celui qu'ils avaient suivi et qui avait été crucifié. Jésus veut déposer du nouveau dans ta vie. Comme il veut déposer du nouveau dans ma vie. Il veut pas qu'on fonctionne avec un souvenir lointain. Il veut pas qu'on avance avec des souvenirs qui datent de Mathusalem. Oh, je me souviens en 1905. J'ai eu une révélation de la part de Dieu. Non. Je me souviens hier. Eh bien, j'ai fait une expérience avec mon Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je vais en faire une autre. Et je suis certain que demain, eh bien, il en sera de même. Le Seigneur veut donner un enseignement nouveau, veut donner à notre vie quelque chose de plus encore. Non, ce n'est pas une niaiserie, mais Jésus veut nous faire avancer. Non, ce n'est pas un délire, mais Jésus veut nous faire avancer. Non, ce n'est pas un rêve inaccessible, mais c'est quelque chose qui est à notre portée, parce que la même table est dressée devant chacun de ses enfants. Il veut que tu fasses une expérience qui soit pratique, non pas théologique, non pas intellectuelle, mais quelque chose de vécu, qui te changera. Et alors ta femme te regardera et te dira, waouh, qu'est-ce que t'as changé? Je t'aimais beaucoup avant, hein? Mais là, alors là, continue d'aller à l'église. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Tu cuisines encore mieux les pâtes. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Version parole français courant. Apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et je vous couvrirai de bienfaits abondants. D'autres versions disent, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Mettons Jésus à l'épreuve. Oh, il est fort ce mot. Seigneur, si tu existes vraiment, si tu veux vraiment me donner, eh bien, ce que tu m'as promis, eh bien, révèle-toi à mon cœur d'une manière particulière. Donne-moi une parole de Dieu. Vraiment, fais une œuvre dans mon cœur, fais une œuvre dans ma vie. Je veux quelque chose de plus. Je veux aller plus loin. Je suis sûr que toutes les bénédictions, elles sont pour moi également. Je le veux de tout mon cœur. Je te mets à l'épreuve, Seigneur. Je te le demande avec sincérité, avec foi, avec assurance. Eh bien, je m'offre sur l'autel. Mettez le dixième. Accomplissez ma loi. Soyez obéissants. Et alors, vous verrez si je n'exauce pas, si je n'ouvre pas. Il est parlé ici du sacrifice, des sacrifices que le peuple devait faire. Il est parlé de la dîme en quelque sorte. Vous savez, le peuple en ce temps-là était quelque peu avare. Il donnait à Dieu les bêtes qui étaient blessées, celles qui n'étaient plus consommables, celles qui étaient malades, et ça irritait profondément l'Éternel. Alors, la réponse du peuple, c'était de dire, oui, mais on a peur, il va nous manquer quelque chose. Et Dieu de dire, si vous êtes obéissant, vous verrez si je ne vous bénirai pas. Vous verrez si je ne vous bénirai pas. Je crois que là, il y a une vérité. Non pas sur le point de vue financier, ce n'est pas là mon propos. Mais qu'offrons-nous à l'Éternel ? Que mettons-nous sur l'autel ? Sommes-nous obéissants? Entrons-nous dans ce plan-là? Le propos de ce verset, c'est de dire, je vais à fond. Je m'engage. Je vais prolonger mon propos avec Thomas. On le connaît bien, celui-là. Il était absent le jour où Jésus est apparu. Il a dû attendre 8 jours. Avant, eh bien, d'avoir sa révélation à lui. Comme quoi Jésus pensait encore à Thomas. Oh, Jésus aurait pu dire, oh, celui-là, il n'avait qu'à pas aller au cinéma ce jour-là. Hein. Oh, il n'avait qu'à pas aller voir sa mère. Il n'avait qu'à être à la réunion d'abord. Mais non, Jésus n'est pas comme ça. Et il va réapparaître aux disciples et il va réapparaître à Thomas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va avoir entendu Thomas dire aux autres disciples, de toute façon, moi, tant que je ne verrai pas ses mains qui ont été percées, ses pieds qui ont été percés, je n'y croirai pas. Alors Jésus va réapparaître à Thomas et va lui dire, mets tes mains. Mets tes doigts dans mes mains. Le texte ne nous dit pas, vous pourrez le relire chez vous, que Thomas l'a fait. Mais il va tomber sur sa face et dire, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus de lui dire, Thomas, tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et vous voyez où se prolonge ma réflexion. Pourquoi attends-tu de voir pour croire? Pourquoi attends-tu qu'un ange vienne te taper sur l'épaule? Pourquoi attends-tu, avant d'entrer dans les promesses de Dieu, un signe extérieur quelconque? Pourquoi? Sois obéissant et vis la simplicité de l'Évangile. On est compliqués, nous, les hommes, les bipèdes, Les enfants le sont beaucoup moins que nous. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus dit qu'il est nécessaire d'avoir un cœur qui leur ressemble. On est compliqué. L'évangile est simple. Tout simplement, Jésus l'a dit, c'est pour moi. Jésus l'a promis, c'est pour moi. Je le crois. La Bible dit que Jésus s'est approché de moi et qu'il est mort pour moi. Alors je l'accepte et je le saisis par la foi. La Bible dit que Jésus est capable de me guérir par un moyen ou par un autre. Eh bien, je le crois, je le saisis par la foi. Jésus a dit que ce que je demanderai en son nom au Père, le Père me l'accorderait. Je le crois, sans complication, sans théorie, sans grand discours, sans rationalité. Je fais tomber tout cela et puis je dis, ouais Seigneur, eh bien, tu en es capable. Et à ce moment-là, eh bien, parce que j'initie le pas, parce que je fais ce que, en patois de Canaan, on fait ce qu'on appelle un pas de la foi, eh bien, Jésus vient à notre rencontre. Jésus vient nous trouver, que ce soit pour nous pardonner, que ce soit pour répandre ce qu'on lui a demandé dans notre vie, si bien sûr, c'est dans sa volonté. Ne l'oubliez pas, ça. Ne demandez pas au Seigneur d'avoir une BMW qui arrive sur votre parking demain. Vous risquerez de vous retrouver avec une deux chevaux. Si c'est dans sa volonté. Mais le Saint-Esprit nous montre comment prier, nous dit comment prier, nous indique comment prier. Que le Seigneur nous aide. Le premier verrou, c'est l'incrédulité. Si tu acceptes, eh bien, d'envoyer de côté tous tes raisonnements, eh bien, le Seigneur Jésus t'apparaîtra dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Le second verrou, c'est la peur. Vous avez pu lire dans ce texte avec moi, hein, qu'ils avaient fermé la porte à clé. Pour quelle raison? Par peur des Juifs. Ils étaient enfermés derrière leur porte et ils devaient se sentir en sécurité. On va sûrement pas sortir, on va pas bouger. Ils se sentaient bien, ils se sentaient à l'aise. Mais la peur tenaillait leur cœur. Vous savez, les fausses sécurités qu'on peut se donner peuvent devenir des prisons. Les choses derrière lesquelles on peut se cacher, plus grande certitude, peuvent devenir des prisons. Les grandes théories peuvent devenir des prisons. La peur des hommes, comme la peur malsaine de Dieu, peut devenir une prison. Ce qui devait à l'origine être pour nous une sécurité peut devenir une prison. Un mariage mal réussi, fait non pas par amour mais par peur de rester célibataire, peut devenir une prison. La volonté d'avoir un enfant pour souder son couple peut devenir une prison. Combien de choses derrière lesquelles on peut finalement se réfugier, des raisonnements peuvent en réalité devenir des prisons. Et les disciples étaient là, ils avaient verrouillé la porte, se disaient on ne craint rien, on ne va surtout pas sortir de notre zone de sécurité, on ne va surtout pas sortir de là où on est, parce que les Juifs pourraient nous faire subir la même chose qu'ils ont fait subir à Jésus. Et comment est-ce que Jésus va réagir ? Exceptionnellement, il va venir sans l'autorisation. Et il va passer la porte. Et il va leur apparaître. Et il va venir avec ces paroles qu'il va répéter deux fois. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Vous savez, on peut se murer parce qu'on peut avoir peur des reproches de Jésus. Mais il ne nous en fera pas. Si on s'approche de lui avec un cœur sincère, il sera celui qui nous pardonnera. On peut se murer parce que l'on a peur des conséquences de notre conversion. Mais les mêmes paroles du Seigneur résonnent pour nous aujourd'hui. Que la paix soit avec vous. On a peur. On peut se murer parce qu'on a peur des conséquences du sacrifice. Les mêmes paroles résonnent. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous.
Jésus est le prince de la paix. Jésus est celui qui donne la paix. Jésus est celui qui communique la paix. Cette paix ne dépend pas des circonstances de cette vie. Mais cette paix est liée à notre relation avec lui. Que la paix soit avec vous. Qu'est-ce que c'est bon de s'endormir en paix? Qu'est-ce que c'est bon de vivre en paix? En paix dans notre cœur. En paix avec notre Dieu. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Comment va ton cœur? Ton cœur est-il en paix? Ou certaines choses viennent-elles troubler? Je vous laisse ma paix. La paix soit avec vous. Vous savez, la peur est un verrou terrible. Parce qu'ils ont eu peur, les Israélites ont tourné 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ont eu peur et qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu, les Israélites sont restés 40 jours à voir deux fois par jour Goliath venir insulter leur Dieu et les humilier. Et, à contrario, la femme atteinte à la perte de sang, parce qu'elle n'a pas eu peur de la réaction de Jésus, et qu'elle a fait cet acte de foi, et qu'elle est allée toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus, qu'elle a bravé la foule, eh bien, elle était guérie. À contrario, Bartimée, lui qui était assis sur le bord du chemin, « Jésus, fils de David, sauve-moi !»« Tais-toi, Bartimée !»« Sûrement pas, je vais pas me taire. Jésus !» Et Jésus veut dire, « Hé, faites-le s'approcher, lui !»« Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Demandez à un aveugle ce qu'il veut. Hein. « Recouvrez la vue. »« C'est bien, ta foi t'a sauvé. » De quoi a-t-on peur ? Quelles sont nos peurs ? Peur de l'échec, peur que notre prière ne soit pas entendue par Dieu, et j'ai envie de dire encore une fois, puisque j'aurai pas le temps d'aborder mon troisième point, je vais le développer un petit peu, les disciples d'Emmaüs. Ils repartaient de Jérusalem à Emmaüs, et quel était leur verrou? La déception. Ils avaient cru, Jésus était mort. Alors ils quittent Jérusalem pour se rendre à 11 kilomètres environ, dans un petit village qui s'appelait Emmaüs. Et là, ils étaient dans leur tristesse, mais dans leur tristesse, que faisaient-ils? Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu, ils s'entretenaient de ce qu'ils avaient vécu. Et là, Jésus va les rejoindre. Fabuleux, ça, hein? Jésus va les rejoindre. Jésus ne nous rejoint pas quand on parle de n'importe quoi. Mais Jésus va les rejoindre parce qu'il l'a vu, il a discerné une soif dans leur cœur. Jésus les rejoint là. Puis il va faire un bout de route avec eux. Il va passer derrière le verrou de leur tristesse, derrière le verrou de leur déception. Peut-être quelqu'un parmi nous, dans son cœur, dit « J'ai déjà prié Dieu, il ne m'a pas répondu. J'ai déjà fait monter ma prière vers Dieu. Et je crois, mon frère, mon ami, ma sœur, que tu l'as fait d'une manière sincère. Simplement. Tu n'as rien mis en œuvre derrière pour qu'elle s'accomplisse. Si tu refais la même prière ce matin dans ton cœur, et que tu ne fais qu'un pas de la foi, et que tu passes en quelque sorte au-delà de ta déception, alors, dans ta vie, eh bien, la grâce de Dieu se manifestera. Ces hommes étaient déçus. Jésus va réchauffer leur cœur au travers de sa parole. J'espère que je réchauffe votre cœur au travers de la parole. Hein? J'espère que ça brûle là à l'intérieur. Et lorsqu'il va rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont comprendre des choses. Tu es déçu. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Continue à avancer. Marche. Le Seigneur est avec toi. Tu le vois pas, mais il est à côté. Il fait route avec toi. Il fait route dans ta déception. Il fait route en parallèle avec les verrous de ton cœur. Tu es là, ta déception, Jésus est là. Et il marche à côté. Et à un moment ou un autre, au chemin, eh bien, se rejoindront. et tu verras que tu le reconnaîtras dans toutes tes voies, comme dira le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies. En conclusion, j'aime beaucoup dans l'évangile de Marc au chapitre 16, lorsque Jésus va apparaître aux femmes, ils vont dire « Allez dire aux disciples et à Pierre que je suis ressuscité. » Pourquoi cette petite allusion à Pierre ? Oh, il en avait besoin, le pauvre Pierre. Hein ? Il devait être tout penaud, en se disant « Pas fier de ce que j'ai fait, moi. » Et j'aimerais vous dire ce matin, de la part du Seigneur, allez dire à Géraldine que Jésus est ressuscité. Dire à Christine que Jésus est ressuscité. Et que Jésus est dans le ciel et qu'il prie pour vous. Que Jésus est dans le ciel et que chaque fois que vous tombez, que vous péchez, et bien, il montre et que vous demandez pardon. Il montre ses mains au Père en disant « J'ai payé pour elle, j'ai payé pour lui !» Allez dire que Jésus est ressuscité et qu'il recueille vos prières dans des coupes d'argent. Allez dire que Jésus est ressuscité et que dans le ciel, eh bien, il a effacé les péchés, il a inscrit votre nom dans le livre de vie. Jésus est ressuscité. Voyons et vivons avec cette réalité-là. Et pas simplement avec Jésus crucifié. Pas simplement avec Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Mais avec notre Dieu qui est dans le ciel et qui est également notre ami. Bien qui œuvre pour nous, qui œuvre en nous et qui œuvre autour de nous parce qu'il nous aime. Amen. Alors oui, il est apparu aux disciples et il veut encore apparaître à nos cœurs ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni.